vous allumez le zinzin, là.
Ça marche, là? Ah ouais, ça marche. Parfait. Impeccable. Merci à vous de m'avoir proposé de venir. C'est un peu fort, non? Hein, un petit peu fort. Un petit peu fort. Effectivement, j'étais président de la SFEN Rhône-à-Loire, après Pierre Bitouzet, ici présent. Il y a déjà plusieurs années que j'ai lâché le manche. Aujourd'hui, j'interviens devant vous avec plaisir en tant que secrétaire général de PNC France. Ça vous dit quelque chose, PNC France? Non. C'est l'association de défense du patrimoine nucléaire et du climat. C'est les deux, oui. C'est la motivation initiale, c'est le climat, et ça aboutit tout naturellement sur la défense du patrimoine nucléaire. Juste en deux mots, pour vous expliquer ce que c'est que cette association, qui est une jeune association. Elle s'est créée en fin 2019, donc vous voyez, c'est tout récent, et elle a une origine un peu particulière. Il s'est trouvé que, courant 2019, on était en plein Covid, mais il y avait une grande crainte qui se développait, mais oh là là, d'électricité, on va en manquer, où est-ce qu'on va, ça va être... Et il y a un certain nombre de personnalités politiques, scientifiques, qui se sont retrouvés pour dire, mais ce qu'on fait depuis 10 ans, depuis 15 ans, en matière énergétique, c'est, on va dans le mur, c'est pas possible. On n'aura jamais la bonne réponse, la souveraineté, la garantie d'avoir un courant disponible, la garantie d'avoir un courant à un prix abordable, on va dans le mur. Et dans ces personnalités, c'est tous horizons politiques. Il y en a un qui a émergé parce qu'il n'était plus en charge de quoi que ce soit, c'est Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Mais à côté de lui, il avait des gens comme Jean-Pierre Chevènement, des gens comme Arnaud Montebourg, comme Hubert Védrine, des gens de droite, de gauche. C'est totalement transpartisan, mais qui ont la même analyse en disant ce que l'on fait depuis 10 ans, on est en train de détruire un outil industriel qui va nous conduire dans le précipice. Et donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il y a déjà beaucoup d'associations pro-nucléaires, qu'il s'agisse de la SFEN, qu'il s'agisse des voies du nucléaire, de la EPN, enfin. Mais elles informent le grand public, c'est bien. Mais en fait, les grandes décisions en matière énergétique, c'est des décisions qui relèvent purement du politique. Celui qu'il faut convaincre, c'est le politique. Le message, c'est bien d'informer le public, mais il faut l'adresser spécifiquement à ceux qui ont les moyens, qui sont en situation de décider. Ben ça, c'est les politiques, et puis les gens de l'administration qui soutiennent les politiques. Donc, l'association s'est créée avec Bernard Accoyer, qui est maintenant président, un vice-président qui est François Goulard, un nom que vous connaissez peut-être, il a été ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, et puis un comité de soutien avec tout un tas de personnalités que j'évoquais tout à l'heure, des scientifiques, des prix Nobel, d'anciens hauts responsables comme Yves Bréchet, qui était un ancien haut commissaire à l'énergie atomique, des prix Nobel, deux prix Nobel qu'on a avec nous. Donc des gens, on a un principe en tout cas, c'est de dire, il faut qu'on s'adresse aux politiques, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le travers des opposants qui raconte un peu tout et n'importe quoi, sans se trop soucier de la réalité, de l'exactitude de ce qui est dit. Donc on a un comité d'experts avec nous, des gens de grande expérience, de grandes compétences scientifiques, pour porter les analyses techniques que l'on peut défendre devant les politiques. Voilà. Je ne m'attends pas plus, simplement je peux vous dire une chose, c'est qu'on est une association, on sera très heureux de vous y accueillir, c'est 30 euros par an, et Macron vous en paye les deux tiers, puisque c'est déductible. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler de la commission d'enquête parlementaire sur les causes de la perte de souveraineté énergétique de la France. C'est une commission qui s'est... Je vais vous raconter ça. C'est une commission donc, qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. C'est quoi une commission d'enquête parlementaire? C'est pas un groupe qui se met comme ça dans un coin pour faire une enquête, c'est quelque chose de très formel, très officiel. Ça revient en fait, c'est le corollaire du droit du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, de s'assurer que les autorités, les administrations, les ministres, leurs services, prennent des actions qui sont bien en cohérence avec soit ce qui a été décidé, soit qui relève de l'intérêt national. Donc c'est une vocation, disons, de contrôle de l'exécutif, contrôle par les assemblées. C'est un droit qui est inscrit dans la Constitution depuis 2008. C'est donc, je dis ça parce que c'est pas un bricolage, quoi. C'est un truc très formel, très officiel. Et la mission de recueillir les éléments d'information sur des faits identifiés, c'est-à-dire la commission, et je vais y venir tout de suite, elle a un objet qui est prédéfini. C'est pas trop fort, non? Non, c'est ça. Bon. Pardon? On n'entendait pas bien. C'est parfait. Elle peut intervenir sur tout un tas de choses. Elle peut intervenir sur tout un tas de choses dans la mesure où il y a une suspicion du fait que ce qui se passe, c'est peut-être bien ou pas bien. Il y a une limite, c'est s'il y a une action juridique en cours sur un sujet, séparation des pouvoirs, ça, il n'y a pas de commission d'enquête dessus. Ce n'est pas un truc qui est fait pour durer éternellement. Il y a un problème, vous le regardez dans la commission, mais dans 6 mois, vous rendez votre rapport. Voilà. Alors ça, c'est une façon générale. La commission en question, elle a été créée au mois d'octobre 2022 à la demande d'Olivier Marleix. Alors Marleix, c'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. La Constitution prévoit donc que les partis d'opposition, comme LR, ont ce qu'on appelle un droit de tirage, c'est-à-dire ils ont le droit de demander la création d'une commission d'enquête par session parlementaire. La demande a été faite pour enquêter sur la politique énergétique de la France. Alors la demande étant déposée, elle est soumise, elle est présentée à la présidente de l'Assemblée nationale qui l'a fait étudier par une commission, etc. Et la recommandation a été faite, politique énergétique, c'est trop large. Et choisissez de vous concentrer sur l'électricité. Bon, ils avaient prévu de remonter 10 ans en arrière dans l'étude qui a été faite par la commission ad hoc. 10 ans, c'est trop court. Remontez plus loin. Et de fait, la commission a été créée, donc officialisée, avec comme objet l'étude de la politique énergétique électrique, en remontant dans le temps, tout ce qu'il fallait. Et c'était une remarque pertinente. Alors le président, c'était Raphaël Schellenberger, qui est un député LR, et le rapporteur, Antoine Armand. Schellenberger, son nom est un peu connu, il est beaucoup intervenu au moment de l'arrêt de Fessenheim, puisque c'est toujours d'ailleurs le député de l'arrondissement de Fessenheim. Ce qui veut dire qu'il l'a vécu vraiment très en direct dans sa circonscription. Et Antoine Armand, il est du groupe Ensemble. C'est pas neutre. Ensemble, à l'Assemblée, c'est le groupe spécifiquement macronien. Et quand on a vu, quand ça s'est créé, je vous fais part d'une réflexion personnelle, mais je ne suis pas le seul à l'avoir eue, on dit c'est bien qu'il y ait cette commission, mais est-ce que, in fine, il y aura la possibilité, il aura le courage, il aura la capacité vraiment de dire ce qu'il en est, alors qu'il fait partie du groupe macronien. Et M. Macron, ça fait un bout de temps, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le circuit. Hein. Donc il y avait un doute. On va voir tout à l'heure qu'il a été courageux. La composition, 28 députés qui représentent tous les groupes, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par les écolos, enfin le Modem, etc. Il y a tous les groupes qui sont là, 28 députés. Ils ont auditionné 88 personnes. 88 personnes, on va revenir tout à l'heure, vous allez voir qui. Donc je dis donc 2 ex-présidents de la République, PR, des premiers ministres, des responsables industriels, des scientifiques, des responsables administratifs. Je vous ai mis quelques noms un peu plus tard. C'est un énorme boulot dans les 5 mois, en fait, qu'a duré cette commission. Ils ont fait 150 heures d'audition. 150 heures, c'est long, hein, 150 heures, c'est beaucoup. Hein. Plus de 5000 pages de contributions, parce que les personnes qui étaient auditionnées, non seulement elles avaient une liste de questions qui leur avaient été adressées, on va vous interroger sur tel et tel point, mais elles arrivaient aussi avec leur propre documentation, leur propre rapport. Et le rapport final, qui a été établi donc pas par le rapporteur, par Antoine Armand, il a été adopté le 30 mars 2023 et publié dans les jours qui ont suivi. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce rapport, il a eu finalement un impact médiatique très, très limité. Très limité, alors qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et on va y arriver. Alors, quelques mots, je ne vais pas tous vous les lire, mais la composition de la commission, vous pouvez, si vous retrouvez des noms que vous connaissez, mais je vous donnerai copie des transparents après, comme ça vous aurez tout ça dans le dossier, mais ça, on ne va pas passer le temps de la conférence à relire tout ça. Les principales personnalités auditionnées, donc ça se passe d'une façon très, très formelle dans une des salles de l'Assemblée nationale, le président, le rapporteur et toute une série de personnes autour de lui et la personne autour. Si vous voulez revoir ces auditions, je vous ai mis le lien internet ici qui permet d'aller voir. Et je vous assure, faut pas, si vous avez du temps, ça occupe les longues soirées d'hiver, hein, c'est bien, vous pouvez y aller. Mais il y en a certaines qui valent le détour quand même. Hein. Donc, ont été auditionnés, à tout seigneur, tout honneur, deux présidents de la République, Hollande, Sarkozy. Le président en place, lui, ne peut pas être auditionné. Hein, il est hors circuit. François Hollande, c'est tout à fait intéressant à écouter. Il explique tout son parcours. Et quand on l'entend, on comprend que c'est lui qui était le sauveur du nucléaire. Alors, rigolez pas. Alors, mais c'est l'art du politique, en fait, parce que il explique comment il a, en bon français, on va dire, limité des dégâts par rapport à ce que Martine Aubry, Cécile Duflot avaient ambitionné de faire. Lui, ce qu'il a effectivement fait, il a dit qu'il allait arrêter Fessenheim. Mais je ne l'ai pas arrêté. J'ai sauvé le nucléaire. Je vous assure, il y a des passages qui valent la peine. Hein. Des premiers ministres, Élisabeth Borne, Lionel Jospin, qui ne s'est pas grandi, honnêtement. Lionel Jospin, c'était une audition intéressante, puisque c'est quand même Lionel Jospin qui porte la responsabilité de la décision d'arrêt de Superphénix. Après l'avoir écouté, j'en reste perplexe. Je ne sais pas s'il était convaincu qu'il fallait techniquement l'arrêter ou si c'est vraiment simplement le jeu politicien qui fait qu'il a conduit à cette décision. J'en sais rien. C'est tout l'art politique de noyer le poisson. Voilà. Manuel Valls, intéressant. La colonne suivante, ce sont tous des gens qui ont été à un moment ou à un autre ministres. Beaucoup ministres de l'écologie. Delphine Bateau, Éric Besson, Borloo, Hulot, Kosciusko-Morizet, Corinne Lepage. Un régal, Corinne Lepage. Un régal. Je vous encourage à regarder. Arnaud Montebourg, qui lui était ministre de l'économie, hein, et qui a été très intéressant. Peut-être que vous avez eu l'occasion de regarder un débat qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Montebourg contre Accoyer, enfin contre, c'est pas vraiment contre, mais Montebourg-Accoyer, donc de positionnement politique très différent. Si vous ne l'avez pas, je pourrais vous le faire passer, c'est vraiment très intéressant, parce qu'ils sont tous les deux aussi convaincants en aclos, je dirais, en défendant des points de vue qui sont les mêmes, pratiquement, avec des horizons politiques complètement différents. Barbara Pompili, je passe. Ségolène Royal, on plane. Magnifique. Dominique Voynet, on pleure. Voilà. Non, on pleure d'abord sur Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est une audition. On verra les mots tout à l'heure. C'est une série de personnalités qui sont intéressantes, à des points de vue différents, qui ont été dans des responsabilités techniques et administratives. Donc Yves Bréchet, un ancien haut-commissaire. François Brotte, qui a été un peu l'artisan de la loi, la LTECV, la loi de transition écologique pour une croissance verte, qui a été ensuite président de RTE, le réseau de transport d'électricité. Chevet, ancien président de l'ASN, l'autorité de sûreté, de Roxuc, le président actuel, Yannick Descata, François Jacques, et Verval, qui sont d'anciens patrons du CEA. Laurent Michel, qui était président ou directeur général de la DGEC, Direction générale d'énergie et du climat, donc un des secteurs importants dans le ministère de l'écologie, et Pierre Chaxy, qui est le président actuel de RTE. Donc, pardon ? Non, non, je ne crois pas l'avoir zappé. Non, non, vous avez été étourné. Voilà, donc des personnalités qui ont baigné dans le jus, des titres différents, qui ont eu leur part d'action ou d'inaction dans le résultat. Donc c'était intéressant. Et puis la dernière colonne, ce sont des responsables d'entreprises, de groupes ou des experts qui sont intervenus là-dedans. Donc Bernard Fontana, qui est le patron actuel de Framatome. D'anciens présidents de l'EDF, je vois Gad Onex, je vois Jean-Bernard Lévy, je vois Henri Proglio et Luc Raymond, qui est le président actuel de l'EDF. Jean Covici, on ne le présente plus, Jean Covici, il est sur toutes les télés, toutes les... Même. Philippe Noreux, qui est le président de Orano aujourd'hui, Anne Lauvergeon, qui fut présidente d'Areva. Je passe. Jacques Percebois, qui est un économiste connu, qui fait partie d'ailleurs de... qui est venu à Chalon et qui fait partie du comité de soutien de PNC France, qui a une part de responsabilité, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure quand on parle de l'AREN, puisqu'il a fait partie de la commission qui avait trouvé ça. Pouyanné, qui est le président de Total. Il y en a plein d'autres, hein, mais je vous ai cité les plus importantes, une façon d'illustrer que la série d'auditions, il a voulu vraiment couvrir le spectre aussi large que possible pour avoir bien l'image de ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Je vais vous faire part d'abord de quelques remarques. Des morceaux choisis, j'ai appelé ça. Dans le rapport, il y a le rapport du rapporteur, le rapport de la commission d'enquête, et puis il y a une partie qui comporte un préambule, on va dire, une synthèse formulée par le président, et un préambule également par le rapporteur. C'est dans cette partie-là que j'ai pioché ces morceaux-là. Donc, pour le président, je rappelle, il est LR, hein, républicain. La commission a observé la désinvolture et le mépris des faits et des contraintes physiques et techniques. Ce que je veux dire, c'est que le rapport en question, il a été approuvé donc par la commission dans toute sa diversité. Je crois qu'il n'y a que Europe Écologie Les Verts qui s'est abstenu, me semble-t-il. Sinon, tout le monde a approuvé ce qui était dedans. C'est pas facile d'approuver ça quand même. Hein. C'est pas facile. Hélas, les dizaines d'heures d'audition ont démontré de manière assez implacable la déconsidération pour la science, c'est-à-dire le poids accordé à l'idéologie au mépris de la réalité scientifique. Ça, c'est quand même assez terrible. Ça, c'est le président. J'en ai quelques autres pour Antoine Armand. Nous avons entendu des responsables publics qui ont mené un combat politique, avant tout contre l'énergie nucléaire plutôt que pour la décarbonation. Un combat d'une remarquable hypocrisie qui allait et qui va en contre, clairement, contre les intérêts vitaux du pays. Je rappelle que Armand, donc, il est macronien. Oser écrire ça, c'était pas gagné d'avance. Il faudrait quand même être courageux. Mais c'est ce qui a été écrit et qui est approuvé. C'est pas à l'avantage de ceux qui sont encore aux manettes aujourd'hui, mais c'est là. Mais j'en ai quelques autres. Il continue. Le récit qui s'est reconstitué devant nous, c'est bien le récit d'une lente dérive. Là, on remonte hein, depuis 1997, etc. D'une lente dérive, une divagation politique, souvent inconsciente et inconséquente, qui nous a éloignés de la transition écologique et de notre souveraineté énergétique. Quand vous dites ça à une Ségolène Royal ou à Nicolas Hulot, c'est pas tout. C'est enfin malheureusement l'histoire de décisions prises à l'envers, sans méthode, sans prospective, aux conséquences lourdes et qui ne semblaient trouver leur source que dans des mots profonds, l'inconscience et l'électoralisme. C'est sévère. C'est sévère, mais il y a pire. Regardez, nous sommes passés de l'incompréhension à la surprise jusqu'à la consternation. Elisabeth Borne a été ministre de l'écologie et fait partie de ceux qui sont visés. Hein ? Consternant. Et donc ce rapport appelle à tourner la page de nos errements, à en tirer toutes les leçons pour affronter les yeux grands ouverts l'urgence énergétique. Je vous ai mis ces quelques... Alors, c'est des morceaux choisis, c'est dans plusieurs pages, mais ça donne la couleur, ça donne le ton du rapport qui fait 500 pages, hein, de rapport. Hein, c'est, mais je vous encourage à le lire, c'est des longues soirées d'hiver, vous allez être très occupés, ça va être très bien. Hein. Donc ça donne bien la tonalité du rapport et le constat, oui, qui est consternant. Quoi, c'est, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 10, 15, 20 ans ? On a fait n'importe quoi. Voilà. Donc ils se sont pas arrêtés là, heureusement d'ailleurs. Et je veux maintenant trois chapitres. Les erreurs qui ont été faites, enfin un peu le constat et la morale qu'on peut en tirer. Les erreurs de notre politique énergétique, l'analyse qui a été faite. Hein, là, c'est des prévisions des besoins d'électricité sous-estimées au regard des objectifs affichés de sortie des énergies fossiles. Là, c'est clairement RTE qui est visé. RTE, pour des raisons purement politiques, hein, sous la pression de leur ministre de tutelle, c'est, normalement c'est une société indépendante, mais non, elle est rattachée au ministère de l'écologie directement. Les consignes étaient données de... Surtout, ne dites pas qu'on va avoir besoin d'électricité, sinon ça va donner un argument au nucléaire. Donc, on a toujours visé plus bas. La rengaine, c'était on va économiser, on va serrer la ceinture, on va optimiser, on va voilà. Mais le résultat des courses, les prévisions, ben, elles étaient nettement sous-estimées et quand on regardait, je sais que des commentaires ont été faits là-dessus, soit par PNC quand on a existé, mais même bien avant, par les académies, ça ne tient pas la route. Hein. Quand on comparait l'évolution de la consommation en France et les prévisions qui étaient faites en Allemagne ou en Angleterre, on n'était pas sur la même planète. Quoi. Mais bon, il ne fallait pas montrer qu'il y avait besoin de nucléaire. Une opposition des énergies renouvelables électriques et du nucléaire. Et ça, c'est une erreur, parce que le mix électrique était déjà pilotable et décarboné. Si on veut faire du renouvelable, pourquoi pas, mais c'est du renouvelable thermique qu'il fallait faire, pas du renouvelable électrique. On a déjà ce qu'il faut, il est déjà décarboné. Donc on cherche de nouvelles sources d'énergie, pourquoi pas. Oui, du renouvelable thermique. La moitié de la France pourrait avoir du chauffage, de l'eau chaude domestique par l'énergie solaire. Jamais, vous n'avez entendu l'ADEME ou autre, jamais il y a eu la moindre... pulsion pour développer ce truc-là. Et ça, c'était manifestement une erreur. On a bâti cette opposition artificielle sur un faux problème. Manque d'anticipation sur la durée de vie et le renouvellement du parc. Donc là, on pourrait développer largement ça. Il y a un chantier isolé, l'EPR de Flamanville, qui a fragilisé la filière. Ses compétences et la capacité du pays à se relancer dans un chantier d'envergure, là. C'est les mots qui sont utilisés dans le rapport. C'est vrai que prétendre maintenir la flamme allumée dans toute une filière industrielle avec une tranche sur 20 ans, c'est complètement illusoire. C'est la compétence, la puissance industrielle, elle n'est pas là. Le fait qu'il n'y ait pas eu en cours de route, mais ce n'était pas dans l'air du temps, d'annonce pour un renouvellement du parc, on va faire etc. On était dans une atmosphère depuis 2012, le nucléaire c'est fait pour s'arrêter, c'est une énergie du passé, donc c'est pas avec ça que l'industrie elle va se développer, elle va tenir fort, etc. Et ça a été une erreur d'appréciation. On peut pas avoir un discours qui dit il faut réindustrialiser la France. C'était pas le discours du temps de Hollande, hein, mais ça a été plus récemment. Un discours, il faut réindustrialiser la France, alors qu'on laisse tomber tout un volet de l'industrie, c'est pas cohérent, quoi. C'est pas cohérent. Autre erreur, les énergies renouvelables. Bon, on a choisi de faire des énergies, de développer les énergies renouvelables électriques. On a vu tout à l'heure que c'était sans doute pas ça qu'il fallait faire, mais bon, c'est ça qui a été retenu. Par contre, à aucun moment, il y a eu le souci de dire, puisqu'on développe les industries renouvelables, puisqu'on développe la consommation de renouvelables électriques, il faut développer les moyens industriels qui nous permettront d'être relativement autonomes. À aucun moment, il y a eu un soutien réel. Il reste en France une société Photowatt qui fait du photovoltaïque, qui n'est pas bien en point, hein, mais il n'y a pas eu de volonté politique de développer en France une filière pour soutenir cette politique qui visait à développer le renouvelable. Donc, on se mettait dans une situation où on allait dépendre d'un autre pays, la Chine, bien sûr. Voilà. C'est une erreur. Marché européen, alors là c'est hyper complexe, on y reviendra un petit peu dans l'exemple que je prendrai tout à l'heure, mais marché européen, on s'est laissé emmener depuis 20 ans dans un cadre qui a fragilisé le modèle économique français. Il y a 20 ans, on avait un EDF solide, il produisait, il transportait, il vendait, c'était un service public organisé, ça marchait impeccable. Et puis au fil du temps, il a fallu tronçonner EDF, RTE, le transport, Enedis, la distribution, etc. La loi nomme la nouvelle organisation du marché de l'électricité et la mise en place de l'AREN. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur ce que c'est que l'AREN, si tout le monde n'est pas bien au fait. Le statut des concessions hydroélectriques où on se bagarre avec la Commission européenne depuis 20 ans, hein, parce que la Commission voudrait que l'on... La plupart des concessions, elles ne sont pas toutes d'EDF, mais beaucoup sont d'EDF. Et la Commission souhaiterait que les concessions accordées soient remises en concurrence. Ce qui est une bêtise sans nom. Il suffit de regarder sur une rivière, sur un fleuve, si vous avez plusieurs barrages, forcément ce qui se passe sur un barrage amont, ça joue sur un barrage qui est plus en aval, etc. Il faut forcément une cohérence. Dire, mais... C'est la concurrence qui va optimiser, c'est de la bêtise à l'état pur. Quoi. Mais non, ça fait 20 ans que ça dure. Et c'est toujours pas soldé. Le marché de l'électricité, on en a vu les résultats l'année dernière, et puis on va les revoir cette année encore à coup sûr. Voilà, bref. Donc le marché européen, ça a fortement déstabilisé la position française. Et dans la recherche, oui, c'est vrai, comme pendant 15 ans... On est sur une voie où on doit sortir du nucléaire, c'est pas là-dessus qu'on va faire l'effort de recherche. Or, la France était le leader mondial incontesté sur les réacteurs de quatrième génération. C'est la France qui avait le plus d'expérience industrielle, le plus d'expérience d'exploitation sur les réacteurs rapides, hein, le Superphénix. Superphénix a été arrêté en 97 pour des raisons purement politiciennes. Et puis, Astrid... En 2019, on a appris par la presse, en août 2019, Astrid, on arrête. On ne sait pas pourquoi, mais on arrête. Voilà. Alors on ne sait pas pourquoi, et j'ose à peine dire que c'est dans la logique de l'époque, mais c'est presque ça. En 2019, on était toujours, Madame Pompili était la ministre de l'écologie, elle avait toujours une trajectoire qui vise le 100% renouvelable, on va sortir du nucléaire. Pourquoi s'enquiquiner à développer des réacteurs qui verront peut-être le jour dans 50 ans? On peut se poser la question. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas eu... Alors, il y a eu des protestations d'un certain nombre de personnalités en disant « Mais non, c'est ça le futur, le nucléaire durable, il passe forcément par les réacteurs de quatrième génération. » Mais c'est passé dans le truc. La seule réaction un peu formelle qu'il y a eu, c'est l'Assemblée nationale, l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui s'est quand même emparé du problème, parce que le développement d'Astrid, il a été défini par une loi en 2006, la loi disait explicitement qu'il devait y avoir un démonstrateur opérationnel en 2021, 15 ans après. Donc, c'était dire « j'arrête », c'est ne pas respecter la loi. Il aurait fallu, à minima, informer, consulter, avoir un avis de l'Assemblée nationale sur la réforme de la loi. Là, pas du tout. Donc l'OPEC s'en est saisi, a sorti un rapport tout à fait accablant sur cette décision, sur le manque de perspective, sur le, etc. Le rapport, au fond du tiroir, on n'a pas entendu parler. Donc ça, c'est un gros manque. Gros manque. Voilà les 6 erreurs de notre politique énergétique telles qu'elles ont été identifiées par la commission d'enquête. Alors quand on a identifié des erreurs, il faut en tirer la morale. 6 leçons. 1. L'énergie, c'est une histoire de temps long. Et quand on parle de la 4e génération, on voit que ça déborde très largement de la durée d'un mandat, qu'il soit celui de sénateur ou de président. C'est du temps long, c'est 50 ans, au moins. Donc il faut mettre en cohérence nos ambitions climatiques, nos ambitions industrielles, nos ambitions énergétiques, sur une échelle de temps compatible, soit plusieurs décennies. Ça, manifestement, ça n'a pas été fait dans la précédente période. L'énergie, via l'électricité, n'est pas un bien comme un autre. Au sein de l'Union européenne, chaque pays défend son mix énergétique. La France doit défendre le sien, pilotable et décarboné. C'est des mots feutrés qu'il faut bien comprendre. Notre mix, effectivement, il est toujours pilotable et décarboné. Et la France doit défendre le sien parce qu'on sort d'une période, la fin de l'année dernière, où c'était peu de temps après les déclarations de Macron relançant le truc, mais pendant 10 ans, on a laissé crever le nucléaire. On l'a fait crever. Et il aurait fallu, au contraire, défendre notre mix. Il aurait fallu, à Bruxelles et à Strasbourg, ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser embobiner, et pour des raisons plus ou moins diplomatiques, il ne faut pas fâcher l'Allemagne, etc., se laisser embarquer dans des trucs qui sont véritablement directement contraires aux intérêts français. L'énergie est une industrie, le nucléaire c'était la 3e industrie française. Il nous faut maîtriser toute la chaîne de valeur, disposer des compétences nécessaires, choisir les technologies les plus rentables et les plus à même d'assurer notre sécurité d'approvisionnement. Et là, entre les lignes, vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure. Si on doit faire des renouvelables, du photovoltaïque ou de l'éolien, fichtre, qu'est-ce qu'on fait pour se doter d'une industrie capable de faire des éoliennes? Ceux qui ont connu Framatome dans les années 97, 18, 19, Framatome, à l'époque, à Gemont, avait développé un système d'éoliennes. Curieusement, à l'époque, Dominique Voynet, ministre, n'avait jamais soutenu quelque projet que ce soit. Ça peut être Framatome. Il y avait déjà le mot atome dans le mot, ce n'est pas possible. Mais c'est l'application pratique. Et il faut bien sûr, si on prétend un jour être autonome, souverain, maîtriser notre destin, il faut avoir les moyens de le faire. Donc il faut s'assurer qu'on sait faire. C'est une des leçons. Espérons qu'elle aura été retenue. L'électricité ne fait pas tout. Et là, on parle beaucoup de l'électricité. Et ce n'est pas anodin. Si on a beaucoup parlé de l'électricité, c'est que la cible, c'était le nucléaire. Et notre nucléaire, avec des centrales de puissance, il est fait pour faire de l'électricité, pas de la chaleur. Hein. Donc, on s'est focalisé uniquement sur l'électricité, alors qu'on aurait pu accélérer le développement des réseaux de chaleur, un petit peu, mais pas vraiment. On aurait pu faire des ENR thermiques, ce que je disais tout à l'heure, hein, du photovoltaïque thermique, pour remplacer les énergies fossiles. Et faire du solaire thermique, ça c'est vraiment une économie directe de gaz et de pétrole. Direct. Ben non, on n'a pas fait. La maîtrise de la demande. Quelle est l'efficacité énergétique atteignable dans le parc résidentiel? Ça, c'est une question à 100 sous. C'est une question à 100 sous. La sobriété se prépare en amont et dans les mentalités. Mais on n'est pas dans un monde abstrait. Dire qu'il faut améliorer l'efficacité énergétique, tout le monde est d'accord dessus. Il faut améliorer l'isolation des maisons sur le principe. Oui. Puis quand on est au pied du mur, qu'on a une maison un peu ancienne, un peu de gueule, un peu de figure, qui n'est pas transformable comme ça, et on dit, oh là, ça va me coûter combien d'isoler? Il faut changer les portes, les fenêtres, refaire l'isolation. Combien? 50 000 euros? Ah, ben non. quand on est au pied du mur, on voit que c'est plus difficile que quand on est dans un bureau parisien bien chauffé de pondre un décret. Et les dispositions qui sont prises actuellement, je ne sais pas si je vous reverrai dans 10 ans, mais je suis prêt à parier que les dispositions actuelles d'obligation d'améliorer l'isolation, elles seront revues. C'est impraticable, impraticable. Et on s'obstine aujourd'hui, je fais une parenthèse, ce n'est pas directement ça, mais vous avez sûrement entendu parler du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Comme quoi, dans l'administration, il y a toujours des gens qui sont crispés sur l'électricité et sur le nucléaire. Aujourd'hui, le DPE, vous avez une maison, un escalier ou un appartement, c'est isolé comme ça, machin, etc. Bon. Et vous faites faire des DPE. Si c'est un chauffage à gaz, chauffage à la centrale à gaz, vous allez par exemple tomber avec un repère 3, classement 3, honorable. Si c'est un chauffage électrique, qui pourtant ne produit pas de gaz à effet de serre, vous allez tomber avec un repère 5, un logement qui sera ni vendable, ni louable. Vous voyez le choc social que ça représente, le nombre de personnes qui vous trouvent attends, oh. On s'annonce, on se prévoit des lendemains très difficiles sur le sujet. Mais la leçon n'a pas encore été tirée, mais ça va venir. Et sans recherche et développement, nous sommes condamnés à avoir du retard. Il y a un besoin de visibilité, de moyens pour anticiper les 5 prochaines décennies, c'est déjà ce qu'on disait tout à l'heure. Donc sur la fermeture du cycle, et ça c'est un gros travail pour limiter le volume des déchets, mieux utiliser l'uranium, comment stocker l'électricité, recycler les matériaux destructifs, les réacteurs de quatrième génération, les champs de R&D, il y en a tout un tas sur lesquels il faut y aller. Et quand on dit R&D, avec une application, avec une intention d'appliquer cet R&D, ça veut dire avoir derrière les moyens aussi d'arriver au stade industriel. Les leçons, elles sont lourdes. Voilà. Dans le rapport, il y a 30 propositions qui sont énumérées. Alors, je ne sais pas, mis les 30, ça va être un petit peu longue. Mais il y a un résumé qui est fait en 6 chantiers, qui se déclinent eux-mêmes en plusieurs. Voilà, 6 chantiers déclinant en 30 propositions. Se doter d'une ambition énergétique pour le long terme, loi de programmation énergie-climat, mais pas n'importe quoi, pas un truc qui est fait « je crois que ». Il faut un truc qui soit étayé scientifiquement et industriellement, donner des objectifs qu'on sait réaliser et qui garantissent notre souveraineté. On est parti de là quand même. Hein. On en est très loin. Hein. On va voir la loi de préparation énergie-climat, elle est en cours d'études, de discussion dans les différents services. Ça se bat beaucoup. Ça se bat beaucoup parce que dans l'administration, c'est une réforme des mentalités. Hein, passer depuis 10, 12, 15 ans d'une mentalité où l'objectif premier, c'est le nucléaire, à une vision actuelle, c'est pas facile. J'en veux pour illustrer les réacteurs de quatrième génération. Malgré tout ce qui a été dit avant, vous ne trouvez pas un mot sur le réacteur de quatrième génération. Pourtant, il faut se projeter dans le long terme. On sait que le nucléaire durable, il passe par là, obligatoirement. Ce sera pour le prochain mandat. Hein. Je suis méchant de dire ça. Au niveau européen, réformer sans délai le marché, suspendre l'ARENH. L'ARENH, donc, c'est ce dispositif qui oblige EDF à vendre une partie de sa production, un quart de sa production, c'est colossal, hein, à prix bradé, à 42 euros, alors que maintenant on estime que le prix de revient du mégawattheure est à 68. Vous voyez, bon. Donc c'est un système suicidaire pour EDF qui a fait perdre un argent fou à notre électricien. Régler le statut des concessions hydroélectriques. Exiger le respect des traités de Lisbonne et des traités Euratom. Juste deux mots pour expliquer ce que ça veut dire. Le traité Euratom, pour commencer celui-là, qui est un des traités fondateurs de l'Union européenne, un des tout premiers, il dit mais très explicitement que la communauté et les États membres doivent soutenir le développement de l'énergie nucléaire civile. Vous croyez que c'est ce que fait l'Europe ? Vous croyez que c'est ce que fait l'Allemagne ? Et c'est vraiment écrit noir sur blanc. L'engagement, je fais tout pour développer l'industrie nucléaire. Le traité de Lisbonne, c'est un peu différent. Il est plus récent. Hein. Le traité de Lisbonne, il institue le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il laisse aux États membres la responsabilité de faire les choix qui leur paraissent pertinents dans le cadre d'objectifs généraux fixés par l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, le traité dit explicitement aussi qu'il appartient à chaque État membre de choisir librement la technologie qui lui paraît la plus pertinente, compte tenu de son environnement, de ses ressources naturelles, etc., de choisir la technologie adaptée pour produire de l'électricité. Quand l'Allemagne, l'Autriche, la Commission européenne imposent des quotas de production d'énergie renouvelable à tous les pays, on n'est pas dans le cadre du traité. On n'est pas c'est en dehors de la vocation, de l'esprit, du texte du traité. Et très malheureusement, depuis 12 ans, la France subit ce genre de choses. Et nos ministres successifs disent « Ah, ça va être difficile, hein. Mais bon, on signe quand même. » Et c'est comme ça qu'on arrive dans la situation actuelle. Décarboner notre mix énergétique, pas électrique, il est déjà décarboné, hein, énergétique, il faut développer les EnR thermiques, puisque j'évoquais déjà tout à l'heure, accélérer les efforts de sobriété, etc., avec des limites que l'on connaît, parce que il ne faut pas rêver, la sobriété, elle a un coût social, on va dire, qui fait que ça va pas forcément jusqu'au bout de ce qu'on voudrait. 6 chantiers, je continue. Renforcer notre souveraineté, c'est bien l'objectif premier, mais sur toute la chaîne de valeur et être à la hauteur des besoins en compétences scientifiques, techniques, industrielles. Et on a bien vu que ce qu'on savait faire, on s'est virtuellement cassé. On a voulu faire autre chose avec les renouvelables, mais sans se doter des moyens industriels. Refaire de la filière nucléaire la grande force française, préparer le renouvellement complet du parc, ainsi que le renforcement du cycle du combustible. Ça, bon, on peut espérer que, compte tenu des décisions prises, on peut espérer, parce que pour l'instant, il y a des mots, mais dans la pratique, il n'y a pas grand-chose. Et énergie renouvelable, sur le fondement d'études de rentabilité énergétique et de coût complet, lancer un plan d'installation de certaines sources ENR. On sent que c'est prudent dans la formulation. On sent que c'est prudent. Pourquoi ne pas faire des ENR, oui, surtout des thermiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être un peu d'électrique, il faut regarder. Mais ça ressort d'études de rentabilité, d'études sur les coûts complets, etc. Ça ne se fait pas au hasard. Donc il y a une analyse auparavant pour asseoir la décision si elle doit être prise. Je ne suis pas certain que ce message-là soit bien passé, d'autant que dans le rapport détaillé, il y a un point sur lequel, à titre perso, je ne les suis pas, Armand recommande l'engagement massif d'éolien marin. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat ce soir, mais c'est... Je ne vois pas bien la logique qu'il y a, en tout cas la cohérence qu'il y a avec tout le reste du rapport. Quoi. L'éolien marin, oui, avoir des éoliens flottants. Voilà sur le rapport en question, voilà la tonalité, le contenu, la morale de l'histoire, etc. Qu'est-ce que vont en faire les autorités actuelles ? Ça, c'est l'histoire qu'il dira. Et je crois qu'il appartient à chacun de nous, à nos associations, de pousser auprès de vos députés, de vos sénateurs, pour qu'ils n'oublient pas ce qui vient d'être dit. Il faut que la morale de l'histoire serve à quelque chose, quoi. Mais c'est pas gagné, parce qu'encore une fois, honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, être ministre, ça ne doit pas être facile. Je rends hommage à notre ministre de la Transition énergétique, Mme Pannier-Runacher, parce que ces gens-là sont entourés par une administration qui est là pour ça, qui vient leur souffler dans les oreilles la même chose que ce qu'ils ont dit pendant 15 ans. Les responsables en question qui ont été là aux manettes pendant 15 ans, ils sont toujours là. hein, pour la plupart. Quand M. Macron, par exemple, se pique un peu au vif en disant qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim, je ne sais pas si vous avez vu cette réaction qu'il avait eue il y a déjà un petit bout de temps, c'est parce qu'autour de lui, le message que lui, on lui passe, c'est « Non, non, mais Fessenheim, c'était pourri, c'était fini. » Et donc, il croit ce qu'il entend dire. Et tant qu'il n'y aura pas eu un ménage profond de fait dans notre administration, on sera dans une situation fragile. Sur la commission elle-même, voilà ce que je voulais vous dire. Jusqu'à quand vous me donnez ? On est bon ? Parce que j'en ai d'autres, hein. Parce que j'aurais voulu illustrer un petit peu plus sur pourquoi la crise de l'électricité, le résultat de ces 15 ans d'errement, comme on disait là. Et donc, il y a eu deux problèmes. Il y a le risque de pénurie, le risque de blackout, qu'on a évoqué l'année dernière, qu'on va recommencer à évoquer, hein, l'automne approche, et il n'y a pas de raison que ce soit réglé depuis. Et puis, la question de l'envolée des prix. Alors, sans trop rentrer dans le détail, l'évolution de la consommation, ça a beaucoup cru dans les années 2000, là où il n'y avait pas de problème. On exportait tant et plus, on avait un parc nucléaire installé, c'était tout pilotable, ça allait bien. Dans les années à partir de 2012, ça plafonne. Pourtant, la population continue à croître, mais on désindustrialise beaucoup, parce que l'industrie, ça pollue. Donc il vaut mieux peut-être envoyer ça en Chine. Hein, c'est, voilà. Je suis un peu sarcastique en disant ça, mais ce n'est pas complètement faux non plus. Hein. Et puis les années Covid, c'est un peu bousculé. Et on arrive à 459 en TWh en 2022, qui est une année catastrophique, l'année 2022. C'est une très mauvaise année. On produit, là on parle, on consomme en France métropolitaine, oui, métropolitaine, ça va, 459 TWh. Gardez ce chiffre en tête, parce qu'on va regarder maintenant. La production d'électricité qui a beaucoup cru, la grande tache en jaune, c'est le nucléaire, bon, le développement du parc, etc. Et en 2022, tant que vous avez le chiffre en tête, on a produit, tout confondu, 445 TWh. On était en dessous du besoin. Première fois que ça arrive depuis Mathusalem, enfin, son fils, depuis très longtemps, voilà. Juste au passage, vous remarquerez que tous les gros efforts qu'on fait pour développer l'éolien et le photovoltaïque, c'est la petite machin rouge et bleu là-haut. Là. Ça donne l'échelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Arrêtons-nous deux minutes là-dessus. 445 TWh de production, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été une année noire pour le nucléaire, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé la corrosion sous contrainte, qui a donc touché curieusement les centrales les plus récentes d'ailleurs, hein, mais il y a des explications qui ont été données, comme quoi les conduits étaient, des problèmes de conception qui étaient un peu inadaptés, et donc la production du nucléaire a été en dessous de 82 TWh, c'est tout à fait considérable, ça s'est effondré. Pour aggraver la situation, l'hydraulique, c'était pas bon, il n'y avait plus d'eau dans les barrages. On a perdu 12 TWh. C'est absolument gigantesque. Si bien qu'on s'est trouvé dans une année, la vie est dure. La vie est dure. On s'est trouvé où on n'avait pas de centrale pilotable à mettre en marche pour compenser la perte qu'il y a eu sur l'hydraulique et sur le nucléaire. Centrale pilotable, c'est le mot important. Je vais y revenir. La difficulté qu'on a, je vais faire toucher du doigt la production, la distribution, la consommation de courant, tout ça c'est interconnecté et c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. On a des centres de production, des centres de consommation, tout ça, ça doit être interconnecté et à tout endroit du territoire, il doit y avoir au bon moment la quantité d'électricité disponible quand il faut. Quelles que soient les conditions. Ça, c'est pas simple, parce que production d'électricité en France, pour le nucléaire, il y a des secteurs où il n'y a pas de nucléaire, pourtant ces secteurs-là, il faudra bien qu'ils aient aussi un peu de courant quand même. Hein. Donc on va essayer de leur en amener un petit peu. Il y a donc 56 réacteurs, plus un en construction, voilà, qui marche plus. Une chose qu'il faut bien toucher du doigt, c'est que 56 réacteurs, ces réacteurs, de toute façon, même quand ils marchent très bien, il y a besoin de programmer des périodes de maintenance. C'est souvent sous-estimé le poids que ça a, cette maintenance. Et alors, ces temps-ci, c'est particulièrement lourd, puisqu'on a ce qu'on appelle le grand carénage. Une tranche qui est en grand carénage, c'est 6 à 8 mois d'arrêt. C'est le prix à payer, entre guillemets, pour s'assurer que ce réacteur, il va pouvoir continuer pendant 10 ans de plus. Mais quand vous avez 56 tranches et que vous devez faire ce grand carénage en quelques années, ça veut dire que vous avez 5, 6, 8, 10 tranches qui sont arrêtées pendant 6, 8 mois. Hein, il faut bien s'en dire ça. Ça, c'est le nucléaire. Je ne m'arrête pas trop dessus. Il y a de l'hydraulique. Oui, parfait, l'hydraulique. 65 TWh qu'on a de production. 2300 installations. Donc, il fallait aller chercher l'électricité dans 2300 installations, plus les 56 qu'on a vues tout à l'heure. Bon, c'est encore jouable. Maintenant, à ça, il faut rajouter aujourd'hui 9000 éoliennes qui produisent, il faut aller chercher leur électricité, deux fois plus de solaire, parce que chacun maintenant a sa petite, son truc sur le toit, etc. Mais il faut d'une part alimenter et puis savoir récupérer le truc. Donc ça fait, il faut aller chercher l'électricité dans un nombre des dizaines de milliers de points de production. Et il faut fournir l'électricité à 33 millions de sites résidentiels, 5 millions de sites non résidentiels, donc avec, mettons 40 millions de sites de consommation, ce qui justifie 1 500 000 km de lignes de distribution. Et tout ça à tout moment, qui doit faire en sorte que la production, où qu'elle soit, le total, s'ajuste en fonction de la consommation, du niveau de consommation, quel qu'il soit. C'est un sacré truc, hein. C'est pas évident du tout. Là, on voit les lignes électriques le long de nos routes, etc. Mais derrière, il y a, j'allais dire, une usine à gaz. C'est un mauvais jeu de mots. Hein. Voilà, parce que à tout moment, sur tous les points de consommation, on doit avoir un équilibre rigoureux entre la consommation et la production, sinon. Le courant, il n'est plus bon. Soit la tension s'effondre trop, soit la fréquence varie trop. Or, la fréquence, c'est quelque chose qui est essentiel, parce qu'on a beaucoup, dans l'industrie en particulier, mais même chez nous, des engins qui sont des moteurs synchrones, hein, il faut que ça marche en fonction de la bonne puissance, de la bonne fréquence. Donc, il faut toujours avoir cet équilibre production-consommation. Alors, à un instant donné, on a une consommation qui est ce qu'elle est. Et pour trouver l'équilibre, si on est un peu court en production, on peut économiser l'énergie. Vous avez entendu parler d'EcoWatt, sans doute, hein, qui a été mis en place l'année dernière, ce qui est une bonne chose en soi. Hein. Il y a des consommations d'électricité qu'il faut les faire au meilleur moment. Si on les fait au moment où il y a le plus maximum de consommation, ce n'est pas opportun, donc c'est pas idiot. Si ça ne suffit pas, on peut faire des effacements par secteur. Et RTE a mis en place des contrats d'effacement avec certaines industries qui peuvent, sur un claquement de doigts, arrêter leur production et économiser quelques mégawatts. Hein. Ceci étant, ça se paye. Hein. Ça a un coût. L'industriel qui fait ça, il faut qu'il ait sa garantie par sa compensation par ailleurs. Et puis, dans le pire des cas, s'il n'y a pas suffisamment d'effacement et qu'on ne sait pas importer davantage, produire davantage, etc., c'est le blackout. Et ça, le blackout, c'est la cata. Hein, parce que si effectivement, il y a eu quelques exemples, vous avez peut-être encore en tête quelques exemples qu'il y a eu en France ou en Europe, le réseau ne se rétablit pas en deux coups de cuillère à peau comme ça, hein, ça prend du temps et surtout, ça a un coût. Ça a un coût économique, un coût social important, parce que les gens, ils n'aiment pas. Avoir des installations de santé qui n'ont pas de courant, c'est pas ça, c'est pas bon. Des écoles où il n'y a pas de courant, enfin, c'est tout un tas de choses. On a une société qui vit par l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, c'est la cagade. Alors, ça c'était pour comment agir sur la consommation. Pour agir sur la production, quand on a des sources pilotables, que ce soit du nucléaire, que ce soit de l'hydraulique, que ce soit des centrales fossiles, on tourne le bouton, on augmente la puissance, on a la limite, et puis tant que ça va, on peut jouer là-dessus. Les énergies renouvelables intermittentes, donc le solaire et le photovoltaïque, croisons les doigts, avec un coup de bol, il y aura peut-être un petit peu de vent, et puis ce ne sera pas la nuit, donc on aura peut-être un petit quelque chose, mais ça, on sait pas, c'est la différence profonde qu'il y a entre les ENRI et les sources pilotables. La source qui peut répondre aux besoins en fonction de la demande et de la commande qu'on lui donne, et l'autre qui ressort du bon Dieu. Et puis, in fine, avec un peu de chance, nos voisins ont un peu trop de courant et ils vont nous accepter de nous en vendre. Ce qui s'est passé l'année dernière, on a acheté tant et plus de courant bien carboné à l'Allemagne quand à un moment où économiquement les Allemands étaient contents. Ils étaient contents de nous en prendre. Ça explique en partie le grand déficit d'EDF l'année dernière. Voilà. Alors, conclusion de tout ça, service public de l'électricité exige de disposer de marges de production pilotables. J'en ai fait un truc à part pour bien le souligner. C'est un point extrêmement important parce qu'au fil du temps et pratiquement chaque année, le président de l'autorité de sûreté, qui est un personnage tout à fait respectable, etc., fait son rapport et attirait l'attention des autorités au fur et à mesure qu'il y avait des centrales à charbon ou au fioul qui, pour des raisons climatiques, étaient mises à l'arrêt, que les présidents en question disaient « Attention, il faut garder des marges de capacité de production pilotables. » Parce que moi, autorité de sûreté, je lance l'alerte parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se trouve dans la situation où on est à choisir entre la sûreté d'une installation qui mériterait peut-être d'être mise à l'arrêt et le besoin qu'on en aurait de la maintenir en service pour répondre à la demande. Ça, c'est la situation qu'il faut absolument développer. Il faut garder des marges de production pilotables. Je ferme quand même les centrales fioul charbon parce que le climat, et puis soyez tranquille, il y aura du vent, il y aura du photovoltaïque, on va faire des ENR. Voilà. Je suis taquin. Alors, répondre à la demande à tout moment. On a vu les sources. Comment évolue cette demande? Voilà l'évolution de la puissance appelée. Je ne parle pas en capacité de production de mégawattheure, mais en puissance, en mégawatt tout court. En été, on consomme moins, on sait pourquoi. Et puis, vous avez les 52 semaines qui passent. Là, le week-end, les industries sont fermées, les magasins aussi, donc on consomme moins. Mais c'est une variation permanente. On n'est pas installé sur un point de consommation. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Et puis, voilà la variation de la puissance. Là, tout à l'heure, c'était la consommation, la puissance. Alors, il faut équilibrer la puissance à tout moment. On a une injection de puissance, ça c'était en 2021, je crois, ou 22, je ne sais plus, enfin, peu importe. Mais ce graphique, simplement pour montrer la variabilité de l'injection de la puissance par les ENRI, le photovoltaïque et l'éolien. Vous voyez que ça varie pratiquement de 0 à 16, 10, 18 000 mégawatts. 16 000 mégawatts, c'est une vingtaine de tranches comme Fessenheim. Hein. Ce n'est pas une paille, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quand il va y avoir une variation de production comme ça, comme les ENR sont prioritaires en accès sur le réseau, à consommation constante, il va falloir ajuster la production des autres sources pour compenser. Hein ? Puisque le courant, quand il est sur le réseau, il faut qu'il aille quelque part. Alors, soit on peut faire baisser le nucléaire, on peut faire baisser l'hydraulique, on peut plus facilement faire baisser les centrales à gaz ou au fioul, on peut même les arrêter facilement. Le nucléaire, il ne sait pas faire des variations aussi brutales que ça. Hein, c'est très compliqué à suivre. Donc ça, c'est un effet négatif. Et puis, au fil du jour, la puissance appelée, je reviens sur la puissance, là, la puissance appelée, au fil du temps, elle est loin d'être constante. Et chaque jour, le matin à 5 heures, tout le monde dort encore, ça va, les magasins ne sont pas ouverts, les usines ne sont pas en fonctionnement, ça monte en charge. Une pointe le soir vers 19 heures, ça c'est une consommation type, hein, voilà. Et à chaque heure, chaque minute, il faut ajuster les moyens de production. Il y a une prévision qui est faite chaque jour, de façon à dire, ben demain, voilà ce que je vais avoir comme consommation à telle heure, donc je prévois de mobiliser telle tranche, etc. Mais la météo a un impact, surtout l'hiver, un impact extrêmement important, et une erreur de 1 degré dans la prévision de température, c'est 2400 mégawatts de puissance en plus, ou en moins. Alors si c'est en moins, on saura sans doute économiser l'eau dans les barrages ou autres. 2400 mégawatts en plus, il va falloir les trouver. Hein, c'est deux tranches et demie comme Fessenheim, c'est pas rien. Hein. Pour 1 degré, alors si on se plante de 3 degrés, là ça devient grave. Hein. Alors, j'avance, sinon je vais être trop là. Je vous ai mis ce graphique-là parce que c'est un graphique historique, c'est un extrait du site de RTE. C'est un jour noir, le 7 février 2012. Vous vous rappelez que tout à l'heure, donc la consommation, on était dans les 80 000 à peu près, hein, l'année dernière. Mais en 7 février 2012, la consommation à la pointe est arrivée à 100 000 mégawatts. 100 000 mégawatts. Et à l'époque, en 2012, ben notre parc nucléaire était encore complet, ça marchait bien. On avait pas mal encore de centrales au fioul et à gaz et à charbon qui marchaient. On avait un peu d'éolien et de photovoltaïque, mais pas beaucoup. On avait surtout ce qu'il fallait en capacité pilotable. Ça a été juste, il a fallu serrer les fesses, mais c'est passé. Aujourd'hui, on ne saurait pas passer. On ne saurait pas passer. Ça peut se reproduire, c'est 2012, ce n'était pas une année fabuleuse, il n'y avait pas de drame. Donc l'hiver prochain, croisez les doigts, faites voler des cierges pour que ça ne se reproduise pas, parce que même en important massivement, on ne saura pas trouver la puissance correspondante. Hein. Il avait fait très froid. Oui, il avait fait très froid. Et oui, ça s'est produit à 19h le soir, il fait très froid, c'est un anticyclone sévère. Vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas de. À 19h, il n'y a plus de soleil l'hiver. Hein, voilà. Si vous n'avez pas la capacité pilotable, vous n'êtes pas bien. Et ben, nous, c'est une différence qu'il faut souligner probablement. Les Allemands font des belles déclarations. Ils ferment effectivement un certain nombre de centrales au fioul ou à charbon pour en mettre des plus récentes, moins polluantes, mais quand même. Hein. Mais ils les ferment pas complètement, ils les mettent à l'arrêt. C'est-à-dire que s'il y a besoin, ils savent réinitialiser en quelques jours, hein, ils savent remettre d'aplomb des centrales qu'ils ont fermées, déjà, qui ne sont pas utilisées, mais qui peuvent redémarrer. Ce que nous, on n'a pas fait, les centrales qui ont été fermées par Nicolas Hulot, par Kosciusko-Morizet et autres, on démolit. Voilà. Et tout ça, évidemment, quand ces décisions étaient prises, c'était sans analyse rationnelle, il n'y avait pas d'analyse d'impact, c'était... Donc pourquoi est-ce qu'on a vécu cette crise l'année dernière et qu'on va retrouver cette année? Je rappelle, donc en 2000, on avait une grande sécurité d'approvisionnement, on avait un parc qui, depuis 1974, on avait le plan Messmer qui avait produit ses effets, une production totalement pilotable, ça, nucléaire, hydraulique, et puis on avait des fossiles, oui. On avait des fossiles, ce qui nous mettait quand même dans une production d'électricité qui était raisonnablement propre du point de vue émission de CO2. Et puis, il y a eu des erreurs stratégiques. Alors, on va retrouver là un petit peu l'application pratique de ce qu'on a vu, de ce qui a été décrit par la Commission. Hein. Dès la fin des années 90, je mets le vert est dans le fruit. C'est pas une faute d'orthographe. Hein. Mais c'est surtout la concrétisation en 97, donc la décision de Jospin de fermer Fessenheim, ce qui était une grande victoire pour les écolos. Hein. C'est une grande victoire parce que les réacteurs de quatrième génération comme Superphénix sont des réacteurs qui ont un immense avantage, avec deux immenses avantages. Ils fonctionnent avec, ils consomment beaucoup mieux l'uranium. Nous, les réacteurs à eau, on utilise l'uranium 235. L'uranium 235, c'est 0,7% de l'uranium total. Là, ils utilisent beaucoup mieux l'uranium. Et surtout, ils produisent beaucoup moins de déchets, je vais dire. Voilà. Les déchets ultimes, les déchets de haute activité à vie longue, le volume est très important, de façon très importante plus faible. Ça, c'est un avantage qui hérisse le poil des écolos, parce que ça tue leur argument qui est « mais les déchets, on ne sait pas quoi en faire ». Et donc c'était une grande victoire pour eux de tuer Superphénix. En 2008, Nicolas Sarkozy a été élu l'année d'avant, et il y a eu une erreur stratégique, oui. Le transfert de la compétence énergie du ministère de l'Industrie au ministère de l'Écologie. Le ministère de l'Écologie, c'était M. Borloo, qui était à ce moment-là ministre d'État. Il fallait un grand ministre. Ça faisait suite à la signature, à l'initiative de Nicolas Hulot, déjà lui. Tous les candidats à l'élection avaient signé le pacte que Nicolas Hulot avait préparé, où il s'engageait effectivement à faire un grand ministère de l'Environnement. Donc il y avait un grand ministre qui a été. Mais l'énergie, substantiellement, c'est lié à l'économie, à l'industrie, d'abord, dans le respect de l'environnement, bien sûr. Hein. Mais c'est d'abord ça. Vouloir dire « je mets l'énergie au ministère de l'écologie », enfin, avec l'expérience qu'on a maintenant, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de confier le ministère du droit des femmes à un taliban ? C'est pareil. C'est pareil. Donc ça, c'était une erreur stratégique qui continue à porter ses fruits pendant très longtemps. Il y a eu juste un petit revers pendant un temps quand il y a eu un ministre du temps de Sarko, ministre à côté de Cruas, par là, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, il y a eu bref. En 2012, là c'est le grand bas de combat entre les écolos et le Parti socialiste pour que François Hollande puisse être élu, l'accord qui est fait entre Martine Aubry et Cécile Duflot. Le nucléaire c'est l'ennemi à l'abattre, et dans le programme on prévoit déjà d'arrêter des tranches, etc. Et c'est là que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait intéressant d'écouter François Hollande quand il vous raconte cet épisode, parce que c'est une autre vision. Mais des objectifs donc déraisonnables, et tout ça aussi sans étude d'impact, sans évaluation de faisabilité technique, de conséquences sociales, industrielles, etc. C'est au nez pour des jeux partisans. 2015, c'est la célèbre loi de Ségolène Royal, loi de transition écologique pour la croissance verte. On annonce la fermeture de 14 tranches à l'horizon 2025, on est 11 ans plus tard. Enfin, le moindre raisonnement aurait dû montrer que c'était complètement à côté de la plaque, complètement illusoire. Non, on a. Et plus inquiétant, c'est non seulement Ségolène Royal et François Brottes ont préparé ce projet de loi, mais le Parlement l'a voté. Le Parlement l'a voté. C'est-à-dire que des. Non, mais ça demande réflexion. Hein. C'est. Ben, bref. Tout ça, donc, des erreurs encore avec un manque d'anticipation, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Le fait qu'on ait fermé 12 gigawatts électriques de pilotables depuis 2010, on peut même le porter à 14 maintenant avec Fessenheim, c'était 12 gigawatts électriques de production thermique. Donc il y avait une excuse toute trouvée, bien sûr, pour le climat, il faut limiter les émissions de CO2, mais là encore, ça peut se comprendre, je la mets à l'arrêt. Mais j'aurais peut-être besoin de pilotables en écoutant ce que dit le président de l'autorité de sûreté. Donc je la mets à l'arrêt, mais je me réserve de la redémarrer si vraiment il y a besoin. Bah non, toujours pas d'étude d'impact là-dessus. Ayez confiance, les ENRI sont là, et vous avez sûrement entendu, il y a toujours du vent quelque part. Vous l'avez toujours entendu. Hein. Et non prise en compte par les pouvoirs publics, des élèves de l'autorité de sûreté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Donc on en est là, on s'en sort, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Aujourd'hui, moyen mobilisable, au mieux, de l'ordre de 75 gigawatts électriques, si tout va bien. Vous vous rappelez tout à l'heure de la pointe de consommation de 2012, on était à 100, 100 000. Alors, ce qui manque, eh bien, on aura peut-être du vent et du soleil, peut-être, mais on n'aura pas 25 gigawatts. Et puis, on pourra peut-être importer un petit peu, mais ce n'est pas gagné. Donc aujourd'hui, la situation, elle est vraiment pas du tout rassurante, pas du tout rassurante. Et je crois que aussi bien RTE que Mme Borne, qui ne porte pas le nucléaire dans son cœur, sont conscientes de la fragilité dans laquelle on est. Et les discours que vous entendez à demi-mot sur les économies d'énergie, etc., ça vient bien là. Mais on ne va pas s'en remettre facilement, parce qu'on a bien vu tout à l'heure, ça a été dit dans la commission aussi, l'énergie, c'est une question de long terme. Long terme. Donc, à court terme, ben oui, on peut mettre en œuvre des plans d'économiser, d'économie optimisée, c'est-à-dire pas fermer tout et n'importe quoi, mais là où ça vaut la peine, où les conséquences ne sont pas pires que le mal, quoi. Restaurer la pleine capacité du parc nucléaire aussi longtemps que possible, ça, je dirais, c'est parti, mais ça portera ses fruits dans le temps. Donner la visibilité nécessaire aux industriels de la filière et engager rapidement la construction de nouvelles tranches pilotables. Donc ça, c'est la construction des 6 EPR2 plus éventuellement 8, ce qui ferait 14 à l'horizon 2050, et on sait que ce ne sera pas suffisant. C'est assez arithmétique. Si on dit, en matière d'énergie, je veux réduire la quantité de combustible fossile, il me faudra plus d'électricité. Et ça, c'est un pavé que RTE a beaucoup de mal à digérer, parce que pendant des années, ils ont tellement affirmé qu'on allait faire des économies, etc. Maintenant, il faut inverser la vapeur, c'est difficile. Hein, ça vient. Alors là, c'est presque parti. Mal que M. Macron donc, a annoncé en février l'année dernière, dans un discours relativement célèbre à Belfort, dans l'usine d'Alstom, comme quoi on allait construire ces tranches, mais ça, il faut le temps de les construire, mais déjà le temps d'avoir les autorisations administratives pour engager quoi que ce soit sur le site. Vous voyez, ça a été fait en février 2022. Il n'y aura pas un coup de pioche de donner sur le site de Penly avant 4 ans. Parce qu'il faut l'avis de la commission, machin, il faut faire une enquête publique, il faut faire un... etc. Donc c'est au mieux en 2027 qu'on va commencer les travaux. Si la première tranche voit le jour et est opérationnelle en 2035, bravo, chapeau. Donc c'est vraiment une affaire de long terme, long terme. Et alors qu'il y a urgence, et on le sait qu'il y a urgence, il y a une loi qui a été votée il y a quelques mois là, pour accélérer les procédures, mais c'est très loin du compte, très très loin du compte. Alors d'ici là, ben, quel moyen de production pilotable disponible? Pas grand-chose. Ben, si on a vu. Pour le long terme, eh ben, déjà il faut réévaluer les prévisions de besoins à moyen long terme. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut oublier ce qui s'est raconté pendant 10-15 ans et le faire de façon rationnelle. Écoute, c'est pas seulement à l'intuition. Adopter une projection réaliste qui soit partagée par le plus grand nombre, c'est vraiment ça l'objectif. Et que la France arrête de se bagarrer en disant mais non, il faut faire plus de ci, il faut consommer moins, etc. Établir un consensus sur le mix électrique optimal. C'est un peu un rêve, mais ce serait tellement bien. Donc ça ne coûte pas cher de le dire. Prendre les décisions nécessaires pour restaurer la souveraineté énergétique de la France et les mettre en œuvre, c'est bien de dire on va construire 6 EPR2, mais il faut passer à l'action. Et là, c'est difficile parce qu'encore une fois, on est sclérosé par une administration qui est toujours de l'ancienne école, qui n'a pas pris le virage. Convenir d'une stratégie stable sur le long terme, relancer sur la R&D sur la quatrième génération, c'est-à-dire mettre de côté la décision d'Astrid, qui demandait sans doute à être revue, et puis passer à l'action, avoir un programme de R&D bien construit sur les réacteurs et le cycle du combustible. Alors, certains disent, en particulier même les autorités, quand on les approche, disent, vous n'en faites pas, il y a des start-up qui travaillent dessus. c'est bien gentil, mais enfin, la politique nucléaire de la France, à l'horizon de 50 ans, ça appartient à des start-up. Enfin, c'est moi, je rêve. Voilà. Je ne tape pas sur les start-up en question, hein, les Narea, Nucleo, Exana, etc. C'est des gens qui sont très motivés, ils en veulent, etc. Ils ont des compétences. Mais s'il n'y a pas une ligne politique qui est affichée, et ça appartient à l'État de dire où il veut aller, hein, bah, on a n'importe quoi. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas une critique à l'égard des start-up en question, mais qu'elles soient cadrées, guidées, que leurs actions soient évaluées, qu'on décide, puisque ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, d'accorder une subvention pour encourager telle chose, que ce soit fait en s'étant assuré que c'est bien conforme à la volonté, à la ligne politique voulue par l'État français. Il n'y a pas de ligne politique. Établir un plan de formation, c'est très vaste, hein, à même de restaurer les compétences perdues. Vous avez sans doute entendu, donc il y a un besoin de recrutement de 100 000 personnes. C'est toutes les compétences qui ont été perdues pendant les 15-20 dernières années qu'il faut reconstituer, réapprendre, reformer, etc. C'est un boulot. Et tout ça, ça demande de se rappeler que gouverner, c'est prévoir. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Voilà. Tac. Encore 3 minutes. Encore 3 minutes, alors. 3 minutes pour dire du mal du marché européen. D'abord, le marché européen, il existe. Hein, les réseaux de transport, ils sont tous interconnectés. Et puis, on a du courant qui vient chez nous, qui vient d'Espagne, qui vient d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Voilà. Les moyens de production sont très différents entre pays. Nous, on est majoritairement nucléaire. D'autres pays, comme l'Autriche, sont très majoritairement hydrauliques. Tant mieux pour eux. Hein, d'autres, comme l'Allemagne, veulent en tout cas tendre vers une majorité ENR, énergie renouvelable. Bon, c'est le constat qu'on fait et c'est conforme au traité en cours. Chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. Parfait. Mais les règles, au fil du temps, elles ont été inspirées par la libéralisation du marché. Ça, c'est une volonté de la Commission européenne, c'est un choix qui a été fait. Et au fil du temps, des directives, des différents traités, etc., tout a été fait pour libérer le marché, étant entendu que une concurrence libre et non faussée, ça offrira à tous les consommateurs du monde européen de choisir le meilleur fournisseur au meilleur prix. Mon avis. C'est pas vrai. Et le traité européen de 2003 qui impose la séparation, production, transport, commercialisation, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Le marché de gros européen, alors il repose sur une règle qu'on appelle la règle du merit order. Dans le principe, on ne va pas en dire du mal, puisque c'est une règle qui a été opérée et qui a été mise en œuvre pendant très longtemps en France, qui a été inspirée d'ailleurs par Marcel Boiteux, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, l'ancien président d'EDF, qui était un homme tout à fait d'exception, et qui dit, moi, quand j'ai des mégawattheures à fournir, je vais commencer par mettre en marche les installations qui me coûtent le moins cher. C'est normal. Et puis, au fil du temps, je finirai à la pointe, les derniers des mégawattheures qu'on va me demander par mettre en fonction les outils de production les plus coûteux. C'est pas idiot. Hein. Parce qu'on était sur un cercle fermé, sur le marché, sur la suite des productions français. Quand on veut transposer une règle comme ça, sur des centres, sur des marchés qui sont totalement différents, pour le cas de l'Allemagne par exemple, avec sa variabilité ENR, ça ne tient pas la route, c'est pas possible. Et on se trouve, oui, bon, je ne commande pas le graphique, vous l'avez vu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure suffit. On veut imposer donc une règle qui a été conçue sur un marché fermé, comme le nôtre, à un marché qui est extrêmement diversifié. Il y aurait peut-être eu une étude d'impact là aussi à faire, ça n'aurait pas été idiot. Donc, juste pour mémoire, triste mémoire, ce que vous avez vécu l'année dernière, hein, je ne comprends pas plus que ça, ça vous dit quelque chose, hein, 2021-2022, aggravé par la crise ukrainienne, mais ce n'était pas que ça, hein, la hausse du carbone, du gaz, etc. Donc, alors que pendant longtemps, ça s'est quand même à peu près tenu. Le prix d'électricité, ça c'est l'évolution du prix de gros. Ce que vous payez, enfin non, parce que vous n'avez pas payé ça en fait, la composition du prix de vente. en régime normal, pas quand on est dans la pointe qu'on évoquait tout à l'heure, il y a le prix du courant qui a été fourni, le prix des électrons, le coût du transport et de la distribution, 32%, et puis les taxes, 33%. Un tiers, grosso modo. Hein. L'année dernière, évidemment, le coût de fourniture, qui est le prix de gros, était beaucoup plus élevé que ça. Hein. Ce qui n'a pas fait pleurer M. Bruno Le Maire, parce que les taxes étaient proportionnelles. Hein. Donc, bien gardé. Elles ne sont pas toutes proportionnelles, hein, parce que la CSPE, par exemple, elle est stable, mais la TCFE est proportionnelle, CTA, vous payez la TVA également sur les autres taxes. Hein. Il y a un niveau de taxes, mais qui sont majorés. Voilà. Donc, ça, c'est en conditions normales, voilà ce que ça coûte. Bon, dans la pratique, voilà un graphique que j'ai trouvé très, très illustratif. Parce qu'il y a une volonté du gouvernement, et il faut lui rendre cet hommage, de plafonner le prix de vente de l'électricité en France. Le prix de vente pour les usagers qui avaient choisi de rester au marché normal, je vais dire. Hein. Dans les autres pays, c'est comme ça qu'en Allemagne, ça coûte 3-4 fois plus cher qu'en France. Et ce qui fait quand même grincer des dents pas mal en Allemagne, hein, y compris les industriels, les artisans, ils sont quand même pas très, très fiers et ils râlent auprès de la Commission européenne parce que la France a une électricité qui est beaucoup moins chère. Alors, ceci étant dit, c'est très bien, ça a déjà été pas facile pour tout le monde. Soyez rassurés, ce qu'on ne paye pas en électricité, vous le payez en impôts. C'est normal. C'est normal. J'avais quelque chose de plus à dire, j'ai jamais sorti de la tête, je ne sais plus. Bon, peu importe. Les conséquences de l'ouverture à la concurrence, qu'est-ce que ça a été la volonté acceptée par la France ? Eh bien, le bel EDF qu'on avait, qui était solide et qui fonctionnait bien, la production est restée chez EDF. Pas que, hein, il y a aussi quelques fournisseurs locaux qui fournissent de l'électricité, le transport à RTE et la distribution confiée à Enedis. Voilà. Donc trois services qui étaient avant réunis dans la même maison EDF. Et puis il a fallu développer la concurrence. Ça a été une longue bagarre au niveau européen, puisque c'est donc la concurrence libre et non faussée qui va apporter le bonheur dans les ménages. Il y avait la volonté de multiplier les offres auprès des consommateurs. Vu de Bruxelles, c'était tout à fait intolérable qu'en France, il y ait un fournisseur comme EDF, un mastodonte, un gros qui domine le marché et qui fixe ses tarifs, voilà, même si c'est sous le contrôle de l'État. Donc il fallait offrir la possibilité aux consommateurs d'avoir plusieurs offres. Donc il fallait développer de la concurrence. En France, développer de la concurrence, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient disposés à investir pour avoir des moyens de production. Pas beaucoup. Il y avait quand même un, c'était Suez, qui était prêt à investir dans une centrale nucléaire à Tricastin, qui avait déjà acheté le terrain, mais ça a été refusé. Bon. Puis Suez est devenu Engie, etc. Mais donc, s'il n'y a pas de moyens de production, comment on fait ? Eh bien, il y a une idée de génie qui est arrivée, ça a été la mise en place d'une méthode d'encouragement original, l'AREN. L'AREN, si vous voyez ce que c'est, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Et l'obligation a été faite, l'obligation a été imposée à EDF, c'était en 2011, de vendre à ses concurrents, puisque EDF c'est le mastodonte qui contrôle tout, qui est l'électricité pas chère, avec du nucléaire, vous allez vendre le quart de votre production, 100 TWh, au prix de 42 euros du mégawattheure. L'accord d'origine prévoyait que le prix soit révisé, etc., mais les ministres suivants ont oublié. Hein. Et puis, comme ça ne suffisait pas en 2022 ou 2021, j'ai peut-être fait une faute là, tout à fait à la fin. Là. Il ne suffisait pas, il a fallu rajouter 20 TWh à 46,2 TWh. C'est tout à fait considérable. Oui, 2022, c'est bien ça, oui. Ça veut dire que 120 TWh, une année où la production d'EDF s'est considérablement affaiblie, on l'a vu tout à l'heure. Mais ceci étant, EDF n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'il vende à des fournisseurs, des concurrents, hein, une électricité pas chère. Donc, EDF s'est trouvé dans une situation où, pour répondre à ses propres besoins, pour servir ses propres clients, ils étaient obligés de racheter du courant sur le marché export à 200 ou 300 euros du mégawatt-heure. Une histoire de fou, une histoire de fou. Hein. Pardon ? Donc, alors, en contrepartie, les concurrents devaient investir dans des moyens de production pilotables, hein, parce que c'est ça qu'il faut. Ils ont oublié. Ils ont oublié d'investir. Mais parce que la plupart des. Il y en a un qui a fini par investir, c'est la centrale de Landivisio, Total Energy, qui avait racheté. Je sais plus quoi. Voilà. Mais sinon, tous les autres, ben, il y a 48 fournisseurs alternatifs, qui sont en fait des traders, des commerçants. Ils achètent à 42. Ils n'ont aucune obligation en matière de stabilité de réseau, d'entretien et du tout. Hein. Ils achètent 2 mégawattheures, ils leur vendent. L'année dernière, ben, il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre la main dans le sac. Ils leur vendaient à des bons prix. Hein. Même certains qui ont franchement truandé, voyant venir la crise, appelant le maximum de clients chez eux, donc présentant à la Commission de régulation de l'énergie un carnet de vente important, et donc ayant une part d'arène plus importante. Et puis, quand l'attribution leur est faite, ils expliquent à leurs clients que, oh, il y a une crise sauvage qui arrive, il vaudrait mieux que vous ayez chez EDF au tarif réglementé. Mais ça, quand même, il y en a 2 ou 3 qui ont été pris de la main dans le sac, parce que c'est vraiment du truandage. Quoi, hein, c'est... Alors, tout ça, évidemment, donc c'est un lourd préjudice, très lourd préjudice pour EDF, qui a fait un déficit abyssal l'année dernière, aggravé par la crise, aggravé par les problèmes de corrosion sous contrainte. Enfin, c'était vraiment l'année noire 2022. Et tout ça, ça a apporté quoi ? Quel bénéfice pour le consommateur ? Quelle amélioration du système électrique ? Bah, on cherche. Pour l'instant, le bénéfice. Je crois que maintenant, il y a unanimité pour reconnaître que ce dispositif AREN, vraiment, c'est une énormité qu'il faut absolument s'en sortir. Ça doit être à réviser au plus tard en 2025. Il y a des voix qui disent, mais il ne faut pas 2025, c'est vis-à-vis de l'Europe où on a un engagement. Il y a des voix qui disent, mais ça suffit les plaisanteries, il faut sortir maintenant. Après, c'est un problème diplomatique entre maintenant, l'Allemagne, etc. Voilà. En guise de conclusion, juste pour s'amuser un petit peu, quoi, les joies de la libéralisation du marché. Ça, c'est un petit graphique qui montre comment ça marchait dans les années 2000. Vous aviez une entreprise EDF qui avait un actionnaire, l'État, essentiellement, hein, qui produisait, transportait, distribuait, livrait à l'usager, qui payait EDF. Une partie qui remontait à l'État sous forme de taxes, ça allait, on s'y retrouvait, ça marchait bien. Et puis le marché s'est amélioré. Vous pouvez suivre chaque trait, c'est quelque chose qui existe, c'est ça aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Je vous laisse méditer et je vous remercie. Je me casse celle-là.
Eh bien, on peut remercier Michel Simon de sa conférence très complète, très documentée. Et donc, on va. Là, j'ai ma petite pompe aspirante de PowerPoint qui va arriver sur le site dans quelques temps. Voilà. Et donc, l'enregistrement plus le. L'exposé, donc je pense que ça vous a apporté quelque chose, puisque finalement, le plan qui a été choisi, c'est suite à une discussion qu'on a eue préalablement en disant ben, on parle beaucoup de la commission, mais il faut donner un exemple effectif, pratique, des conditions actuelles de la vente, de la production et de la vente et de la distribution de l'électricité. On a déjà eu plusieurs conférences là-dessus. Monsieur Fleischer était venu il y a quelques années nous parler des réseaux. Alors l'aspect vraiment technique, la régulation avec la fréquence, donc il fait ça très bien. C'est son métier, c'est son métier. Donc on a dans nos archives suffisamment de matériaux pour étayer, si vous voulez, les aspects techniques de cette distribution. Un autre point que vous avez rapidement évoqué ici, c'est la distribution. Alors, avec beaucoup de renouvelables, le nombre de sources explose, et donc il faut beaucoup de fils de cuivre pour lier tout ça. Et du cuivre, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion, dans une conférence que j'ai faite la saison précédente, à la fin, de dire la course aux métaux, c'est un thème qui devient très fort dans les magazines en ce moment, et en disant tout ça c'est bel et beau, mais tout le monde va se précipiter sur le cuivre dans le monde entier, et les prix, comme le pétrole, comme l'électricité, ça va grimper à la vitesse grand V. Voilà. Bon, c'est le moment de poser des questions, éventuellement intelligentes. Voilà. Alors, oui ?
Parlant, qui incarne au singulier ou au pluriel l'assassinat programmé du nucléaire?
C'est Savonarole qu'on demande là, c'est-à-dire l'accusateur public.
c'est difficile à dire. Il faut mettre une personne seule pour porter le chapeau. Non. Dominique Voynet a une large part. Dominique Voynet a une large part parce que c'était la. Disons, la figure de proue du mouvement écolo auprès de Jospin. Elle s'est fait un peu prendre d'ailleurs aussi de la main dans le sac, en quoi elle n'avait pas suivi les instructions qui lui étaient données lors d'une conférence à Bruxelles où elle avait trompé son patron, Lionel Jospin. Voilà, elle n'avait pas suivi les instructions. Mais c'est un peu court de dire que c'est Dominique Voynet. C'est tout un mouvement qui est venu d'Allemagne, qui est. Les ONG ont une grande part de responsabilité. Hein, des associations comme Greenpeace, comme Degawatt. Il faut bien voir que les politiques, ils sont élus. Ils sont élus. Bon, eh bien, si l'opinion pense que c'est bien de se passer de nucléaire, eh bien, on va mettre des gens qui veulent le nucléaire. Hein, voilà. Si Mme Voynet, qui est une personne tout à fait intelligente, compétente, machin, etc., a choisi ce positionnement-là, c'était probablement parce que ça lui permettait aussi d'être élu. Les coupables, c'est les électeurs. Je raccourcis, hein.
Non, mais ça a été dit très clairement, tous ces débats, tel que vous le dites, ça a été dit dans les auditions.
Ah oui, absolument.
Les gens n'ont pas menti. C'est-à-dire les gens qui ont arrêté le nucléaire ont dit on l'a arrêté pour des raisons politiques. Et ils l'ont dit publiquement. Voilà. C'est dans leur rapport.
Voilà.
Donc, ils n'ont pas dit ah ben non, c'est à part Hollande qui a fait le numéro de danse du ventre. voilà. Mais donc les gens qui étaient vraiment vous avez cité les noms, l'ont dit. Hein, ils n'ont pas menti.
Ah non, voilà. non. Ils n'ont pas menti. Oui. C'est.
Oui, mais on frise le débat politique, c'est-à-dire l'électeur est incompétent par nature, on va dire par nature, et il prend sa décision individuellement selon ses propres opinions, mais statistiquement, avec le résultat des élections, ça donne ce qu'on a vu. Voilà, c'est tout. Et ce qu'on a à un certain moment, ce sera comme ça. Et puis, il peut y avoir des changements politiques qui fassent que demain, donc le long terme et la démocratie, ça a beaucoup de difficultés à vivre ensemble. Alors, si vous voulez me faire dire qu'il faut une dictature pour faire du pour faire du nucléaire, il y en a quelques-unes sur la planète qui font effectivement du nucléaire et qui font du long terme, ils ne sont pas tellement démocratiques. Hein, ça, c'est clair.
Votre question, en fait, elle amène à
Voilà. Hein?
Votre question,
voilà, bon.
Votre question, elle amène à souligner la fragilité de notre démocratie. Parce que c'est très bien de donner la parole au peuple, mais sur quelle base ils jugent? Et les médias ont une énorme part de responsabilité, énorme, parce que les médias sont guidés d'abord par le nombre de lecteurs ou d'auditeurs qu'ils vont avoir, beaucoup plus que par l'authenticité du propos qu'ils sont en train de servir. Comment est-ce que le lecteur il peut s'y retrouver là-dedans? Et notre démocratie, je parle à titre perso, pas au nom de PNC France, mais je crois que notre démocratie, en France, elle est malade. Elle est malade. Quand je vois qu'un président de la République, il y a moins d'un Français sur deux qui se déplace aux urnes pour le choisir, fichtre, on n'est pas bien. Je déborde. Oui.
Oui, pardon. Oui, vous tout à l'heure vous aviez dit que une maison avec un chauffage gaz était mieux valorisée qu'une maison à chauffage électrique.
Oui.
Pourquoi?
Pourquoi? Là, la réponse est sans doute l'ADEME qui saurait vous la donner, puisque c'est eux qui pondent ce genre de législation. Il y a aucune justification rationnelle ou technique, mais c'est un reste de l'ancienne réglementation RDPE qui n'a pas été corrigée à l'époque où il fallait tuer l'électricité, il fallait tuer le nucléaire. Mais aujourd'hui, c'est absurde. Nous, en tant que PNC France, on a dû écrire 3 fois au ministre, à la Direction Générale d'Énergie Climat, pour leur dire, mais ça tient pas la route, votre truc, c'est contraire à la politique qui est annoncée par le président. On n'a pas eu de réponse. Pas sur la DPE. Pas sur la DPE. Alors, elle était un petit peu favorisée parce que avant, il y avait un coefficient. Il y avait un coefficient qui pénalisait, qui était de 2,57, je me rappelle bien, et qui était descendu à 2,32. Purement cosmétique. Hein. Non, sur le fond, c'est pas corrigé.
S'il vous plaît, j'ai lu un article à midi, donc c'est pas trop tard.
C'est bien.
Comme quoi il y avait une diminution du débit du Rhône du fait de la fonte du glacier des Alpes. Donc il y aura diminution de la production hydroélectrique sur le Rhône et production nucléaire sur le Rhône, puisque le refroidissement ne sera pas bon. Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que ça aura des conséquences?
On en tient compte, la réponse est oui, bien sûr. Les exemples où il y a eu besoin de réduire la production d'une centrale nucléaire du fait soit d'une insuffisance du débit, soit d'une température trop élevée en amont. Ça existe aussi. Alors, il y a quelques heures dans l'année où ça s'est produit. C'est pas négligeable, pourvu que ça ne se trouve pas au moment d'une pointe.
Mais la réduction de débit du fait que le glacier dans les Alpes fond, obligatoirement. Donc, le débit va continuer à diminuer. Donc, la production hydroélectrique va diminuer aussi. Et le refroidissement des centrales nucléaires va diminuer aussi.
La production hydroélectrique sur le Rhône, avant qu'il diminue, il faudra qu'il n'y ait plus du tout de glacier. Quoi. Parce que sur le Rhône, c'est au fil de l'eau. Donc tant qu'il y a de l'eau. Sur l'hydroélectricité, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Sur les centrales thermiques, que ce soit au gaz ou autre, ou au nucléaire, peu importe.
Nucléaire, le refroidissement, c'est bien de l'eau aussi.
Alors, c'est de l'eau, et vous avez sans doute observé qu'il y a des centrales qui sont en cycle fermé, d'autres en cycle ouvert. Alors, voilà. Celles qui sont en cycle fermé, c'est-à-dire qui restituent l'eau, la consommation d'eau, elle est peanuts. Hein, Par contre, l'eau qui est restituée, elle est plus chaude. Voilà. Hein. Et l'autre, oui, il y a une consommation d'eau. Alors, il faut se reporter sans doute loin dans le temps. Est-ce que dans 50 ans, il y aura encore... Là, je suis incompétent. Je suis pas compétent pour vous répondre. Là, je ne sais pas. Et j'ai un principe, quand je ne sais pas, je ferme ma gueule.
On a fermé, comme vous l'avez dit, un certain nombre de centrales thermiques, mais essentiellement donc fuel, charbon. Mais parallèlement, se sont développées pas mal de centrales gaz qu'on a mis sous cocon très rapidement. Qu'est-ce qu'il en est de leur puissance réelle par rapport à ce qu'on a fermé?
On n'a pas construit beaucoup de centrales gaz. On a construit une à Landivisiau.
Non, à Saint-Nazaire, par exemple.
À Cordemais?
À Saint-Amontoire, il y en a bien une.
Mais qui existait déjà avant. Il reste quelques centrales. On a 200 de capacité thermique, on doit avoir une dizaine de mégawatts peut-être, qui reste en gaz, puisque la seule centrale charbon dont l'arrêt avait été décidé, elle a été remise en service l'hiver dernier, et en centrale gaz, vous dites des nouvelles centrales, non, il y en a une à Landivisiau au point.
Non, mais le total des centrales gaz disponibles représente-t-il quelque chose d'important?
Je dirais de l'ordre de 10 mégawatts, à peu près. 10 gigawatts, oui, c'est de l'ordre de grandeur. Hein, hein. Voilà, c'est ça. Ouais.
Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable.
Il en a besoin.
Vous ne pensez pas quand même que l'attitude, le comportement un peu impérialiste et condescendant qu'a eu l'EDF pendant des décennies a facilité le mouvement écologiste? Parce que vous parlez de Voynet, mais rappelez-vous d'un certain Brice Lalonde, ça bouge depuis très très longtemps. Et je pense que l'EDF n'est pas tout à fait innocente. J'entends l'EDF, ensemble, et ses dirigeants.
Je dirais que la perfection n'est pas de ce monde. Et peut-être qu'il y a une part de responsabilité d'EDF. Je ne suis pas chamaillé dessus. Ça peut se comprendre. Vous évoquez Brice Lalonde, qui aujourd'hui est un avocat du nucléaire convaincu. Hein.
Vous nous avez montré que le système européen est très pénalisant pour la France. Il paraît que le Portugal et l'Espagne n'ont pas adhéré à cette clause commune européenne. Vous pouvez nous commenter?
Alors, Espagne et Portugal avaient adhéré, ils avaient signé la directive, ils avaient donné un accord dessus. Ils ont obtenu une dérogation de la Commission européenne, comme quoi ils n'étaient plus tenus, parce que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la raison officielle qui est donnée. Il se trouve que ce sont deux pays qui sont au bout de l'Europe. Ils sont sur le réseau, ils ne communiquent pas avec d'autres. Eux, ils reçoivent, c'est tout. Donc, ils n'ont pas de rôle direct dans l'équilibre du réseau. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est l'explication qui a été donnée. Et ils s'en sortent bien. Alors, il y a des voix qui disent, mais pourquoi nous, on ne fait pas pareil? On ne fait pas pareil parce que notre réseau, il est interconnecté avec l'Italie, avec le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, machin, etc. Je ne dis pas que ce serait infaisable, mais il faut une volonté politique musclée et qui conduirait à prendre le risque d'une crise diplomatique majeure avec l'Allemagne. Est-ce qu'on est prêt? Je ne suis pas diplomate. Mais quand on a 3 000 milliards de dettes, on fait profil bas. C'est moi qui dis ça.
Bon, on va remercier à nouveau Michel Simon pour son exposé brillant.
Merci.
Et puis, donc, merci d'être venu. On recommence nos conférences le 4 octobre. Et donc, ça ne parlera pas de nucléaire, mais de la Bible. Voilà, on va changer de sujet.